Conférence privée par le père Philippe à Rimont, le 20 mai 1988.
Je ne sais pas si vous avez su. Je l'ai su déjà depuis quelques jours, alors c'est possible que vous l'aviez su, qu'il y a eu l'ordination de Max Durian en Italie, il y a 2-3 jours, quand nous sommes tout proches de Thésée. C'est quand même une action de grâce que nous devons remercier le Seigneur. Vous savez bien combien... Vous n'entendez pas ? Très bien. Je savais qu'il était au Carmel de Genève depuis 6 mois. Et la dernière fois que je suis passé à Genève et j'ai prêché au Carmel, au Cénacle, je veux dire, de Genève, j'ai failli le voir, je sais qu'il voulait qu'on se rencontre. Je n'ai pas pu. Mais maintenant, je comprends. Il se préparait sans doute à cela. Alors, il faut prier aussi pour Thésée, parce que ça va être sûrement pas pour Schutz, c'est facile à porter, puisque lui est tout proche, mais pour les autres, ça pose toujours un problème. Vous savez bien qu'il avait écrit sur la Vierge Marie des choses très belles. On sentait toute une évolution très profonde, intérieure, qui se faisait. Puis maintenant, il a demandé de passer à l'Église catholique. Et on l'a tout de suite ordonné. De sorte que on l'invitera un séjour ici, sûrement. Nous allons continuer alors cette lecture de l'Apocalypse. J'ai été très vite sur la fin, la dernière fois, étant donné que vous voyez bien combien c'est difficile, ces interprétations qui nous sont données, combien les chapitres 15, 16, 17, les chapitres qui montre bien comment Dieu veut cette purification, ce discernement qui se fait avant de voir la Jérusalem céleste dans toute sa gloire. Alors je reprends, si vous voulez, le mystère des coupes, qui sont les dernières purifications, les ultimes purifications. Chapitre 16. Et j'entendis une voix forte venant du sanctuaire qui disait aux 7 anges, là n'oublions jamais, les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes. Parce que les 7 signes, ça c'est un peu quelque chose qui est un peu brodé. En réalité, il y a 3 signes. Il faudrait se demander du reste la signification du 3e. Les 2, on voit très bien, puisque c'est la femme et le dragon. Et au chapitre 15, il est dit, et je vis dans le ciel un autre signe, grand et merveilleux, 7 anges, ayant 7 plaies, les ultimes, car c'est par elles que s'est achevée la fureur de Dieu. Donc c'est bien les ultimes purifications comme troisième signe. Voyez bien, on montre la lutte et l'achèvement de la lutte qui se fait directement par Dieu. Les deux signes montrent les deux contraires. La femme Marie, l'Église et nous-mêmes, la créature. Je crois qu'il y a les trois significations de la femme. Le dragon, c'est le serpent antique et l'adversaire. Ce symbolisme du dragon implique les trois pour montrer l'opposition du dragon à l'égard du Père, le serpent à l'égard du Verbe et l'adversaire à l'égard de l'Esprit Saint. Il est anti-trinitaire, ce qu'on oublie beaucoup trop, de voir que le démon est anti-trinitaire. Il ne faut pas oublier que les anges ont été créés dans un ordre surnaturel de justice divine, de justice surnaturelle. Et donc, ils avaient la foi dans le mystère de la très sainte Trinité. Et en perdant la foi, l'espérance et la charité, il y a eu une opposition de haine vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de la très sainte Trinité. Parce que c'est normal de trouver à l'égard de Lucifer cette triple opposition. C'est pas trois personnes différentes, mais c'est pour exprimer ce que représente cet anti-amour de Lucifer. Il est le serpent, il est le dragon, il est l'adversaire. Donc, on montre d'abord les signes qui donnent la signification profonde de la lutte. Et le dernier signe montre la fin de la lutte. Et la fin de la lutte, elle se termine par ces sept anges ayant sept plaies, les ultimes. Et je vis comme une mer vitrifiée, mêlée de feu, et les vainqueurs de la bête, et de son image, et du chiffre, de son nom, debout sur la mer vitrifiée, ayant les sitares de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, l'esclave de Dieu, et le cantique de l'agneau, disant « Grande et merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. » Donc toujours, au moment des luttes ultimes, la vision du ciel. Ça qui est très très beau dans l'Apocalypse, c'est de voir l'éternité et l'éternité dans le temps. C'est la vision du ciel qui est donnée en premier lieu et la grande victoire. Avant de nous montrer les sept plaies, avant de nous montrer comment s'achève la fureur de Dieu, on nous montre la grande victoire des élus. Et la mer vitrifiée, je crois que c'est le symbolisme de Marie. On l'avait vu tout à fait au début. Et alors, ça me semble assez net ici, debout sur la mer vitrifiée, qui montre bien le lien entre les élus et Marie, leur mère. Il y a ce lien d'amour. Et alors, ce cantique de Moïse et le cantique de l'agneau, pour montrer le lien entre la grande louange de l'ancienne alliance et la louange de la nouvelle alliance. Et après cela, je vis, et le sanctuaire de la tente du témoignage s'ouvrit dans le ciel, et les sept anges qui ont les sept plaies sortir du sanctuaire vêtu d'un lin pur. Splendide et ceint à la poitrine d'une ceinture d'or. Alors, ces anges, les envoyés, c'est très curieux que c'est le symbolisme du sacerdoce. Puisque, vêtu d'un lin pur, c'est toujours le vêtement sacerdotal, et ceint à la poitrine d'une ceinture d'or, sacerdoce royal du Christ. Or, les anges n'ont pas le sacerdoce, n'ont pas la grâce du sacerdoce royal du Christ. De sorte que là, ça pose ce problème de savoir ce que sont ces sept anges qui ont les sept plaies. Évidemment, c'est le chiffre parfait, on va dire, c'est sûr. Il y a les 24 vieillards qui présentent les hommes, mais ici, c'est sept. Au moins, posez la question. Puis si vous trouvez, vous me le direz. Si je le trouve, je vous le dirai. Il faut accepter que dans l'Apocalypse, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. C'est vrai, c'est très difficile, on peut mettre des tas d'hypothèses. Mais je crois que c'est lié au sacerdoce du Christ. Il faut dire les apôtres. Pourquoi sept? Si on mettait 12, on serait sûr. Mais les sept. Même pas les cinq premiers qui sont donnés dans Saint Jean. Sept. Mais je crois bien que c'est le sacerdoce de Jésus qui est désigné là. Ce qui serait assez normal, vous voyez. Parce qu'au fond, pour les trompettes, c'est le grand gouvernement de Dieu, où les anges jouent un rôle important. Ici, ce n'est plus le gouvernement. Dans le devenir du gouvernement, c'est le jugement, le discernement, la purification. Ce sont beaucoup plus des instruments de Jésus, des envoyés du Christ. Et l'un des quatre vivants donna aux sept anges sept coupes d'or, pleines de la fureur du Dieu qui vit pour les éternités d'éternité. Donc les sept plaies sont liées aux sept coupes et sont liées à la fureur de Dieu. Et on s'approche comme ça progressivement pour comprendre un peu ce que ça signifie. Et le sanctuaire se remplit d'une fumée qui sort de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait pénétrer dans le sanctuaire jusqu'à ce que fussent achevées les sept plaies des sept anges. Donc, l'ultime exécution de la justice de Dieu. Et là, on est vraiment dans le point de vue des dires de la fin du jugement, du discernement. Hein, ce que je vous ai dit. Traduisons jugement par discernement, je crois que c'est beaucoup plus juste. Le krinein. C'est discerner. Et je crois que c'est beaucoup plus compréhensible. C'est Dieu qui fait le partage entre ce qui, en nous, est encore païen et dépend du démon, et ce qui, en nous, est de la grâce. Et vous comprenez bien que lorsqu'il s'agit du jugement dernier, de cet ultime moment, il n'y a plus ces purifications successives. Et donc, il nous est manifesté d'un seul coup ces purifications dernières. Alors, est-ce qu'on peut faire ça? Vous voyez ce que je vais dire? Parce que j'essaie de comprendre. Bon. Les sept sceaux, c'est les décisions de Dieu, c'est le point de vue de la prédestination. Les sept trompettes montrent bien tout le point de vue de la terre. C'est le gouvernement de Dieu. avec ses instruments, ceux qui exécutent. Donc nous sommes dans l'ordre de l'exécution. L'exécution, elle est dans le temps. Les signes deux et un. Les deux donnent le sens du gouvernement divin, le sens de la lutte. Quelle est cette lutte? Quelle est la signification de cette lutte qu'on a vue avec les trompettes? C'est d'une part la femme, d'autre part le dragon. La femme, Marie, l'Église, la créature, aimée de Dieu, chef-d'œuvre de Dieu. Je crois que ce sont les trois, tout le temps. Marie, elle est chef-d'œuvre de Dieu, elle est l'Église, elle est la petite créature. Ça, c'est le propre du langage symbolique. Le langage symbolique a la possibilité d'avoir des niveaux différents. Le langage scientifique, même analogique, forcément, on précise les niveaux. Là, l'immense avantage, c'est qu'on ne précise pas. C'est très difficile à traduire, là. Mais il y a toujours les trois niveaux. C'est pas les trois niveaux de la femme et du dragon, en opposition au dragon. Et le dernier, vous voyez, est relié avec ce que va représenter le jugement. On entre dans le jugement. Vous voyez ? On pourrait dire les décisions de Dieu. Prédestination. Les décisions de Dieu, les exécutions, la signification profonde de la lutte et le jugement qui est ultime. Il y a quatre grands moments. Puis alors, le dernier, Jérusalem céleste. Ça, c'est la fin. C'est le septième saut, c'est l'entrée dans le ciel. Quoi. Ou la descente du ciel sur la terre. Puisque de fait, il y a cela. Le jugement va impliquer l'exécution du jugement. Et l'exécution du jugement est représentée par ces sept coupes. Les anges avec les plaies, les coupes de la colère de Dieu, de la fureur de la colère de Dieu. Et je crois que c'est le dernier signe, vous voyez, qui nous est montré là. La purification complète qui doit se faire. Et alors, ce jugement, il n'est pas... L'exécution, elle est dans le temps. Le jugement est quelque chose d'ultime. Et dans ce quelque chose d'ultime, nous voyons le discernement de la grâce, ce qui est de Dieu. Puis, ce qui est lié au dragon. Alors on pourrait dire ce qui est lié à la femme, ce qui est lié au dragon. Si Marie est la mère de toute grâce, on comprend très bien. C'est ce discernement ultime dans la lumière de la femme et du dragon. Vous voyez ? C'est pour ça que l'aspect le plus net qui donne un peu la clé de toute l'Apocalypse, c'est le chapitre 12. C'est le signe. Ça donne la clé, ça. À partir de là qu'on comprend. Alors on va dire, pourquoi on ne l'a pas donné au début? Parce que il fallait attendre pour bien comprendre. Comme toujours. Dans notre vie, il y a des moments où subitement on comprend. C'est des moments où on est dans le noir. Du moins dans la foi. On ne voit rien du tout. Et là, vous voyez, ce signe, c'est aussi bien par rapport à ce qui est avant que ce qui est après. Et la grande division avant, c'est quand même les sceaux et les trompettes. les sauts, les déterminations. Et si vous remarquez bien, seul l'agneau peut ouvrir les sauts. Ce qui montre bien que lorsqu'on est dans les décisions et la prédestination, c'est Dieu directement, sans intermédiaire. Le seul médiateur, c'est Jésus. C'est l'agneau, comme immolé. On est prédestiné dans le cœur de Jésus. La théologie nous le dit. C'est intéressant de le comprendre dans une vision symbolique de l'Apocalypse. Les exécutions, au contraire, permettent les intermédiaires. Dieu se sert d'intermédiaires. C'est pour ça qu'il y a dans les exécutions des intermédiaires. Et dans les exécutions, la difficulté de comprendre ce qui vient de la femme et ce qui vient du dragon. Ça ne peut se discerner qu'au terme. Oui, vous ne pouvez pas, actuellement, dans l'état dans lequel on est, faire un partage exact des eaux. Ça, ça vient de Dieu. Ça vient de la grâce. Ça vient du démon. Ben, je prenais toujours l'exemple. Une tuile qui vous tombe sur la tête. Est-ce que c'est le mauvais ange qui vous l'envoie ou est-ce que c'est le bon ange? C'est vrai, vous ne pouvez pas. Les gens illuminés diront « Ah oui, c'est sûrement le démon, il m'en veut. » Alors ça vous donne bonne conscience. Enfin, si le démon vous en veut, bonne conscience. Et si c'est un rappel de Dieu parce que vous l'oubliez, c'est peut-être le bon ange qui agit d'abord très doucement et comme vous n'écoutiez pas, après il agit avec un peu plus de dureté. Alors, nous allons voir maintenant l'analyse des sept coupes. Et vous allez essayer de comprendre dans ces sept coupes, dans la lumière du jugement. Dans la lumière du jugement, le discernement des deux. Et j'entendis une voix forte venant du sanctuaire qui disait aux sept anges, allez et versez sur la terre les sept coupes de la fureur de Dieu. Sur la terre, il y a la bête de la terre, il y a les habitants de la terre. Et toujours pour l'Apocalypse, les habitants de la terre, c'est ceux qui mettent leur finalité dans les biens sensibles. Et donc, je crois que c'est assez significatif. Il faut verser sur la terre les sept coupes. Tout ce qui est en nous est encore terrestre, l'homme terrestre, et non pas l'homme charnel, et non pas l'homme spirituel. En chacun d'entre nous, il y a toujours un homme spirituel et un homme terrestre. Et quand nous prenons des décisions, nous ne savons jamais si c'est l'homme de la terre qui les prend ou si c'est le Saint-Esprit. La sincérité ne fait pas le discernement. On peut être sincère et être de mèche avec le démon. Alors on n'est pas vrai. On est vrai que quand on est conforme à la volonté du Père. Ça, je crois que c'est très important, parce que dans notre monde d'aujourd'hui, sincérité et vérité, c'est souvent un peu mêlé. Et au fond, les sept coupes sont faites pour qu'on fasse ce discernement. Alors, ce que je vous disais, on est donc en face ici de sept purifications. Au moins six. Six purifications. Alors, c'est là la question que je me pose au point de vue théologique. Est-ce que ces six purifications données symboliquement, qu'on voit au terme, est-ce qu'elles peuvent nous aider à comprendre dans notre vie actuelle, quand nous sommes sous le gouvernement de Dieu, les sept purifications. Oui. Je reprends d'une autre manière pour que vous compreniez bien. Nous avons vu les 7 sceaux successivement. Et je vous ai dit, c'est les décisions de Dieu à travers notre vie divine, dans la lutte. Nous sommes prédestinés à être enfants de Dieu à travers toute la lutte et dans toute la lutte. Donc, les sept sceaux expriment les 7 dimensions de la grâce. Concrètement, est-ce que les 7 coupes ne vont-elles pas désigner les purifications à travers les exécutions? Là, je me pose la question. Parce que je crois que l'Apocalypse est très très riche. Et on n'a pas du tout utilisé ça en théologie. Alors, en théologie scientifique, on ne peut pas. En théologie mystique, on peut. C'est sans doute parce qu'il n'y a pas eu de théologie mystique qu'on a laissé l'Apocalypse tranquille. Alors que si on regarde attentivement, je crois que l'Apocalypse doit nous aider à comprendre comment se réalisent de fait les purifications en nous. Vous allez voir, c'est pas commode. Le premier s'en alla et il versa sa coupe sur la terre. Il eut un ulcère mauvais, pernicieux, sur les hommes qui avaient la marque de la bête et sur ceux qui se prosternaient devant son image. Donc c'est net, hein? C'est les habitants de la terre. Mais faites attention, hein. C'est trop facile de dire les mauvais, c'est les habitants de la terre. Nous sommes les bons, nous sommes les habitants du ciel. Hein. Donc la première coupe, on la regarde sur les autres. Hein. Le noviciat est fait pour qu'on s'aperçoive que quand on entre au noviciat, on entre avec la boue sur nos souliers. Et donc il y a encore un petit peu les habitants de la terre. Et jusqu'à la fin de notre vie, il y aura tous les habitants de la terre. C'est bien évident. Trop facile, hein. C'est pas nous qui faisons le partage en disant bon, « Je suis du ciel, eux ils sont de la terre. » C'est pour les habitants de la terre que ça dégringole. C'est pour nous aussi. Purification. Un ulcère pernicieux sur les hommes. Alors, quel est cet ulcère pernicieux? Ça touche le corps, l'habitant de la terre. Les habitants de la terre ne sont sensibles qu'à ce qui touche le corps. C'est évident, puisqu'ils sont plus spirituels. Alors, purification du corps, par cette coupe. Dieu qui envoie, Dieu qui permet des maladies mystérieuses. Pour purifier les habitants de la terre. Ça ne veut pas dire, hein, tous les habitants, tous ceux qui ont cet ulcère pernicieux sont des habitants de la terre, pas du tout. Hein. Parce que nous portons pour les autres et nous portons pour nous. Toujours, chacun d'entre nous. Et nous ne savons pas ce que nous portons pour nous et ce que nous portons pour les autres. Heureusement, Dieu. Quelqu'un me dit, moi je porte uniquement pour les autres. J'ai toujours très peur. J'ai toujours très peur qu'il y ait un petit peu d'orgueil là-dedans. Ce qu'on porte pour les autres. On entre en vie religieuse pour l'Église, pour la gloire du Père, pour l'Église. Et l'Église est responsable de tous les hommes. Et donc on entre en vie religieuse pour tous les hommes. Et on entre en vie religieuse pour anticiper les 7 coupes. C'est pour anticiper les 7 coupes. Là, vous voyez, le noviciat n'est pas grand-chose à côté des 7 coupes. Hein. 7 jours de la semaine, les 7 jours de la semaine. Tous les lundis, l'ulcère pernicieux. Sur les hommes qui avait la marque de la bête et sur ceux qui se prosternaient devant son image. Avant d'entrer au noviciat, on a tous un peu la marque de la bête. Tous un peu, c'est bien. Et ça dure encore quelquefois un peu après. La marque de la bête. Le deuxième versa sa coupe sur la mer. Vous voyez, la terre, la mer, il eut du sang, comme d'un mort. Et tout être vivant qui était dans la mer mourut. Terrible, ça. Hein? La mer qui est source cachée de vie. Il eut du sang, comme d'un mort. Et tout être vivant qui était dans la mer mourut. Alors on dira la pollution des eaux, hein, oui. Ça c'est l'application un peu matérielle, mais quand même qui est vraie. Pollution des eaux, le cancer, l'ulcère pernicieux, et tout ce qui... Ça, c'est une application. Mais vous comprenez que c'est beaucoup plus que ça. C'est une application, ça. C'est beaucoup plus. Parce que c'est vraiment Dieu qui purifie. Le cancer, on le vit différemment. La pollution, on la vit différemment. On doit pouvoir la vivre comme une purification que Dieu nous envoie. Alors à ce moment-là, ça fait partie du mystère des coupes. Si on la vit comme une purification que Dieu nous envoie. Et le troisième versant sa coupe sur les fleuves. En nous, il y a la terre, la mer, les fleuves. Le troisième versa sa coupe sur les fleuves et les sources d'eau. Il eut du sang. Alors le sang comme d'un mort. C'est mystérieux. L'âme est dans le sang. Et là, le sang, l'eau changée en sang. Partie de ces changements mystérieux que Dieu opère depuis Moïse. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait « Tu es juste, celui qui est, celui qui était, toi le Saint, d'avoir exercé ces jugements. » Donc ces discernements, ces purifications. Car ils ont versé le sang de saints et de prophètes. Et c'est du sang que tu leur as donné à boire. Ils le méritent. Alors voilà la signification du sang dans l'eau. Les habitants de la terre ont martyrisé ceux qui étaient de la femme, ceux qui étaient liés à Marie, ceux qui étaient liés à l'agneau. Et Dieu veut les purifier d'une façon homéopathique. Vous voyez bien, purification de cette sorte, par le sang. Il faut comprendre ce que ça veut dire, hein. Parce que c'est symbolique, ça. Et j'entendis l'autel qui disait « Oui, Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, véridique et juste, tes jugements. » Dieu les purifie par où ils sont capables d'être purifiés. Vous voyez ? Et c'est pour ça que Dieu atteint en eux ce qui, en eux, demeure vulnérable. Pas se faire autrement. Parce que chacun d'entre nous, hein, il y a une vulnérabilité particulière. Ici, c'est la vulnérabilité de ceux qui ont été violents. Et qui ont été violents jusqu'à tuer. Et alors, Dieu les purifie en se servant de ces vulnérabilités. Ils ont versé le sang des martyrs, c'est par le sang qu'ils sont purifiés. Et ça, ça montre bien justement comment les purifications sont diverses pour chacun. Et le symbolisme là qui nous est montré ici nous montre bien cela. Dieu poursuit l'homme créé à son image. Et il veut que lui-même fasse le discernement entre ce qui est bon et mauvais. Et pour cela, Dieu les châtie. C'est la punition de Dieu, le jugement, l'exécution à l'égard de cette. Ce jugement. Et le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés d'une grande brûlure. Ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a le pouvoir sur ses plaies. Ils ne se repentirent pas pour lui rendre gloire. Alors là, c'est toute l'atmosphère. C'est une des choses qui donne le plus de crainte. C'est de voir certains événements qui peuvent se produire à partir du soleil. Sur notre atmosphère, sur lequel nous ne pouvons rien du tout. Ce qu'on constate aujourd'hui, vous savez, certains événements comme ça, qui font qu'il y a des chaleurs telles que certaines personnes meurent. Parce que l'atmosphère, à certains endroits, semble être un peu... Là, c'est intéressant comme application pour nous aider à comprendre. C'est vrai, mais faisons attention, tout ça est symbolique. Donc quand vous prenez uniquement l'application matérielle, c'est bien, ça vous aide, mais ce n'est pas suffisant, c'est symbolique. Et parce que c'est symbolique, ça regarde le corps et ça regarde l'âme. Alors vous pourriez reprendre tout cela du point de vue spirituel. C'est beaucoup plus facile du point de vue spirituel. L'ulcère pernicieux. Toutes les erreurs théologiques. L'ulcère pernicieux. La manière dont, vous voyez, la désagrégation de tout. Normalement, la doctrine vous permet d'être debout. Alors quand c'est désorganisé de l'intérieur, un ulcère pernicieux. C'est vrai. Il y a un ulcère pernicieux comme il y a un sida spirituel. Il faut comprendre ça. Tous les mots physiques dans la lumière de l'Apocalypse doivent être compris de façon symbolique. Ça ne veut pas dire que ce sont les personnes qui ont ces mots physiques qui sont affligées des mêmes mots spirituels. Pas du tout. C'est l'humanité. Et l'humanité, dans cet ultime moment du discernement de Dieu, elle a toujours été, depuis le début, elle est dans la lutte. Mais tout s'accumule à la fin. Tout se précipite à la fin. Alors le sang, comme d'un mort, tout vivant qui était dans la mer mourut. Alors je crois qu'on peut dire que le sang ici, c'est justement ce qui nous empêche d'aller vers Dieu. Tout ce qui est comme un arrêt. Et l'espèce de grimace de l'âme source de vie. Je crois que le sang là est pris justement dans de cette manière-là. Comme ce qui empêche l'élan spirituel. Et comme c'est tout un climat, on pourrait dire les idéologies athées. C'est quelque chose qui vient s'appesantir et qui pénètre. Et sur les fleuves et les sources d'eau, il y a du sang. Ce qui devrait être source de vie devient source de mort. Spirituellement. Ce qui devrait alimenter notre foi et notre espérance, les deux fleuves. Nos fleuves, c'est ça, c'est les vertus théologales. Eh bien, ça devient quelque chose qui empêche le développement des vertus théologales. C'est là, je crois, on saisit le mal le plus profond, comme un arrêt, comme quelque chose qui arrête le développement des vertus théologales. Et le soleil, c'est évident, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, matériellement, physiquement, le soleil est là pour permettre la vie de s'épanouir. Spirituellement, le soleil, c'est le Christ, source de tout amour et de toute lumière. Bien, comment, à la place d'être brûlé de l'amour du Christ, on est brûlé par les passions, on est brûlé par toutes les passions de jalousie, de colère, de haine. Et le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume devint enténébré. Et les hommes se mâchèrent la langue de douleur. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel pour leur douleur et leur ulcère. Ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Mais un endurcissement. Comme si Dieu pouvait donner tous les signes possibles, il ne voit plus. Un endurcissement. Vers ça, ça coupe sur le trône de la bête et son royaume devint enténébré. Il y a une division à l'intérieur même du royaume des ténèbres qui se fait par ce discernement de Dieu. Et alors les hommes sont encore plus affolés parce qu'ils ne voient plus où est le bien et le mal. C'est vrai, c'est ça l'affolement. Et cet affolement se traduit par ils se mâchèrent la langue de douleur. Ils blasphémèrent Dieu. Et le sixième versa sa coupe sur le fleuve, le grand fleuve Euphrate. Et l'eau du fleuve se dessécha pour que fût prêt le chemin des rois du soleil levant. Ça devient encore plus mystérieux. Très curieux. Les chemins des rois du soleil levant. Alors, tous ceux qui sont pour le grand monarque, vous voyez, c'est tout à fait ça. Le sixième coupe, le fleuve et l'eau du fleuve se dessécha. Sécheresse complète, famine complète. Alors à ce moment-là, il y a un grand appel et apparaissent les rois du soleil levant. Donc des sauveurs. Comme c'est mystérieux. C'est quand même donné pour nous, hein. Alors, on voit à peu près, mais... Alors, est-ce qu'on doit rester dans l'à peu près ? Vous savez, dans le langage symbolique, on doit souvent se contenter un peu de... à tâtons. Et c'est quand même très, très mystérieux. C'est six coupes. C'est six purifications. Alors, est-ce qu'il faudrait ? Je ne sais pas. Je vous donne des pistes de recherche. Est-ce qu'il faudrait regarder, parallèlement à ça, vous voyez, les sept dimensions de l'homme ? Parce qu'il y en a sept. Et comprendre les sept purifications par rapport aux sept dimensions de l'homme. C'est possible. Au moins les six. Parce qu'il y a sûrement, quelque chose que nous devons essayer de comprendre. Il faut bien saisir que c'est ultime, c'est dernier. Ça. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète. Donc ils sont tout le temps là, hein. On n'a plus parlé, mais ils sont là. Ce qui prouve bien que tout ce qu'on a vu au point de vue des signes est présent dans ces sept coupes, dans le point de vue du jugement. Trois esprits impurs, comme des grenouilles. Le symbolisme de la grenouille est toujours lié à des esprits impurs. Il sort de la bouche de la bête, et du faux prophète, et du dragon. Il y a trois bouches, et il y a trois esprits impurs. Alors est-ce que c'est le prolongement des trois? L'infiltration des trois par les grenouilles. L'adaptation des trois. Le dragon, la bête de la mer, et le faux prophète, la bête de la terre. Trois esprits impurs comme des grenouilles. Ce sont en effet des esprits de démons qui font des signes et s'en vont vers les rois du monde entier en vue de les rassembler pour la guerre du jour, du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. Oui, alors là, on voit non plus l'homme, là c'est l'homme qui est purifié. À côté, on voit l'action constante des trois. Cette fausse trinité, cette anti-trinité des trois, qui emploie ce nouveau stratagème des grenouilles. Et ce sont des esprits du démon. Oui, toutes les propagandes sont des grenouilles. C'est évident. C'est un esprit impur qui affecte tout, toutes les communications, tout ce qu'on peut transmettre. Ce sont des esprits de démons qui font des signes et s'en vont vers les rois du monde entier en vue de les rassembler pour la guerre du jour, du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. Donc vous voyez bien, ce rassemblement des hommes, il y a deux rassemblements des hommes, la tour de Babel et ici. Alors y a-t-il un lien entre les deux ? La tour de Babel se présente comme le dernier moment des grandes fautes. C'est le septième moment. Grand moment des grandes fautes. Parce que juste après, c'est l'histoire d'Abraham. Donc la tour de Babel représente comme un faux rassemblement des hommes. C'est un rassemblement des hommes pour se rassembler contre la présence de Dieu. On n'a plus besoin de Dieu. C'est ça la tour de Babel. On coopère pour ne plus avoir besoin de Dieu. Il y a quelque chose comme ça ici. C'est pour ça que les deux doivent un peu se mettre en parallèle. La différence, c'est que dans la tour de Babel, il semble que ce soit l'initiative des hommes. Ici, c'est l'initiative des grenouilles. C'est-à-dire des esprits impurs qui proviennent des trois. Curieux. Les hommes menés par les grenouilles. C'est ça, hein. C'est pour ça que je fais une petite ressemblance avec ce qui se passe dans les propagandes des médias. Les hommes se laissent manœuvrer le plus bêtement possible. C'est peut-être ça, oui, le symbole de la grenouille. C'est tellement bête, une grenouille. Mais c'est vrai. La grenouille qui se met... Alors, c'est ce que ça veut montrer, vous voyez. Le dragon, il n'est pas bête. La bête de la mer et le faux prophète sont pas bêtes. Et deux proviennent des grenouilles, des esprits impurs. Et les hommes, les rois de la terre, les puissants, se rassemblent. C'est ce qui se passe, quoi. Regardez un petit peu. Vous êtes enveloppés de grenouilles. Et au bout d'un certain temps, on se laisse prendre. On se laisse diriger par ça. Et il y a un grand rassemblement. Un grand rassemblement. C'est pas du tout comment ça se fait. Comme ça. Résultat, c'est ça. Ce sont en effet des esprits de démons qui font des signes et s'en vont vers les rois du monde entier en vue de les rassembler, de rassemblement, pour la guerre du jour, du grand jour de Dieu. Pour la guerre, c'est contre Dieu. Voici que je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements, de peur de marcher nu et de laisser voir sa honte. Voilà le grand avertissement. Quand vous êtes en face de ces grenouilles et de tous les rois de la terre qui se rassemblent et qui s'unifient pour lutter contre le grand jour, il y a deux grands jours. L'heure du Christ et le retour du Christ. Ils se rassemblent pour et contre ce retour du Christ. Et voici que je viens comme un voleur. C'est pas étonnant, parce qu'ils sont tous pris par ces esprits impurs. Alors on comprend très bien, à ce moment-là, il vient comme un voleur. Heureux. Heureusement qu'il y en a encore quelques-uns. Heureux. Celui qui veille et garde ses vêtements. On est revêtu du Christ. C'est le vêtement du Christ. Oui, pour une prise d'habit, c'est très beau. L'an prochain, il faudra prendre ça. Vous êtes revêtu pour ne pas vous laisser séduire par les grenouilles. Vous comprendrez bien ce que ça représente, ça. Vous voyez, heureux celui qui veille et garde ses vêtements. De peur de marcher nu et de laisser voir sa honte. C'est extraordinaire. Donc ceux qui se laissent prendre par ces esprits impurs sont nus. Nus dans le sens qu'ils ont abandonné la grâce. La nudité du pécheur, il n'a pas la grâce, il n'aime plus. C'est ça la nudité, le grand vêtement c'est l'amour. Et ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. C'est très impressionnant, ça. Parce que c'est tellement actuel. Pas nier, tellement actuel, ça. nombre des chrétiens, des pratiquants a diminué, diminué, diminué. Au moins dans notre vieille Europe. Alors le lieu, Armageddon, heureusement qu'il y a des petits printemps autre part. Mais dans notre vieille Europe, c'est comme ça. Et le septième versa sa coupe dans l'air. Et du sanctuaire, d'auprès du trône, il sortit une voix forte qui disait « C'en est fait ». Il y a eu des éclairs et des voix et des tonnerres et une grande secousse. Voilà les secousses apocalyptiques. Telle qu'il n'en a pas eu depuis que l'homme a paru sur la terre. Une pareille secousse, aussi grande. Et la grande ville s'en alla en trois morceaux. Et les villes des nations nombreuses. Et de Babylone la Grande, on se souvint devant Dieu pour qu'il lui donne la coupe du vin de la fureur de sa colère. Et tout est ordonné vers la Babylone. Toutes les coupes, toutes les purifications. Et les hommes ne comprennent pas et se laissent prendre. Ils se font tous. C'est très, très fort, je crois, ce qu'on voit aujourd'hui. Et toute île s'enfuit, et on ne trouvera plus de montagne. Une forte graine, comme de grelons, pesant un talent, s'abat du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu pour cette plaie de graine. Car grande est cette plaie extrême. Comme l'Apocalypse maintenant chante ce salve Regina pour se mettre un peu dans le ciel et comprendre que celui qui a la foi et l'espérance ne craint rien.